Radiophonie.
Quand la psychanalyse donne de la voix. Une bévue, un oubli, un acte manqué. C'est ce qui se trouve être à l'origine de la conversation radiophonique que nous vous proposons aujourd'hui, conversation avec l'artiste peintre Patrick Chambon, qui a étudié les arts plastiques à l'École des arts décoratifs de Monaco, aux Beaux-Arts de Toulouse et de Lorient. Une bévue, un raté finalement réussi puisqu'il nous conduit en fin de compte à rencontrer l'auteur dans un café parisien à l'heure où les néons illuminent et réchauffent la nuit tombante. Sur la table, son deuxième album consacré à Lacan, est sorti en 2016 aux éditions RS, Lacan au banquet de Platon. Une sorte d'expérience graphique, une BD en noir, blanc et gris, où Patrick Chambon ressuscite le séminaire lacanien de 1960 sur le transfert. Séminaire où il est question de Socrate, d'Alcibiade et d'Agathon, et où textes et images s'enchaînent, comme en analyse, dit l'auteur, sur le principe de l'association libre. Alors pourquoi avoir choisi ce thème de l'aimé et de l'amant? Comment parler de la fonction du manque et parvenir à sa mise en relief dans le cadre d'un dessin? Quelle est finalement la visée du désir, notamment celui du psychanalyste bien sûr, mais aussi celui d'un artiste contemporain? C'est sans détour que Patrick Chambon a répondu aux questions de Stéphanie Thor, peut-être, en partie au moins, par amour pour Lacan.
Donc je vous rencontre sur cette bévue où j'oublie de citer la source, en fait, sur un post Facebook, la source d'un dessin. Et c'est un extrait de Lacan au banquet de Platon. Et puis vous me tirez un peu par la manche. Et vous avez bien fait, puisque finalement, je vais lire le livre. Et puis voilà, on se retrouve pour Radiophonie. Alors, vous êtes peintre, vous êtes plasticien. Vous exposez dans des galeries plutôt fameuses à Paris. Oh non, on peut pas dire ça.
Ça a pu m'arriver, mais en ce moment je suis un peu à la recherche là, de nouveaux lieux, donc.
peut-être que quelqu'un
voilà,
l'entendra.
Je lance un ballon.
je tombe sur ce bouquin qui moi m'étonne beaucoup, qui me surprend, c'est-à-dire cette alliance en fait d'un graphisme très particulier et puis d'un vif intérêt pour la psychanalyse. Vous vous penchez dans ce bouquin sur le séminaire de 1960, le transfert. Comment un artiste, un plasticien, quelqu'un qui a fait une formation aux Beaux-Arts, va finir par se pencher sur ce séminaire de Lacan?
Moi, en fait, je suis assez fasciné, attiré par la philosophie des années 70, donc Lacan, Barthes, Derrida, Foucault, ces gens-là. Donc, c'est vrai qu'au Beaux-Arts, on n'a pas tellement eu accès à ce registre, parce que bon, c'était un registre plutôt artistique. Mais c'est un des livres que j'ai lu quand j'étais au Beaux-Arts, Le banquet de Platon. Donc j'aimais beaucoup la forme dialoguée de Platon. Donc c'est moi qui lisais pas énormément étant plus jeune. À ce moment-là, je suis tombé sur ce livre et ce livre m'a vraiment fasciné. Bon, et puis après, j'ai pas mal lu effectivement les Deleuze sur Bacon, enfin des livres importants de philosophes. Et étant donné que je suis assez féru de tout le travail sur le langage. C'est vrai aussi que dans les arts plastiques, vous avez une tradition de la performance aussi, voyez. Donc c'est depuis les années 50, beaucoup de performeurs ont fait des tas de choses très différentes, mais donc l'acte de venir dire quelque chose devant un public, ça m'intéressait. Et quand j'ai rencontré effectivement le travail de Lacan, c'était aussi après un premier travail sur Oscar Wilde. Voilà, souvent je le réinjecte, même en ce moment je suis en train de faire un travail sur Foucault et c'est pareil, je le fais venir de temps en temps. Parce que Wilde, c'est vraiment justement une découverte sur l'aspect un peu, l'aspect drôlactique du langage, la façon d'avoir à énoncer quelque chose avec toute la beauté du mot, mais en même temps avec le rire qui va avec. Et ça, j'ai trouvé ça aussi très parallèle avec Lacan, quoi. C'est vraiment un truc qui m'a touché. Et aussi, il faut dire que je suis sensible aux textes quand ils ont un pouvoir de visibilité, c'est-à-dire c'est comme si je voyais le langage. Le langage est une espèce de pâte plastique qui tout d'un coup est manipulée devant nous. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon premier travail avec Lacan, quoi, sur les néologismes. J'ai découvert effectivement une édition d'Eppel où ils ont fait la récollection de tous les néologismes, enfin de beaucoup de néologismes lacaniens. Et là, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un parallélisme avec ce que j'avais fait sur Oscar Wilde et aussi avec mon amour du langage, du rire, du witz. Hein, c'est comme ça qu'on dit le mot d'esprit. Et donc, voilà, j'ai un peu commencé comme ça. J'ai découvert les néologismes. Et je lisais pas mal les aphorismes de Wilde et tout ça. Donc la forme courte me parlait pas mal. Et donc c'est mon premier livre, c'est vraiment un livre où Lacan vient sur scène et vient dire un néologisme comme une espèce de chanson.
Ça c'était le premier, voilà. Mais ce que vous dites justement de cette place très particulière devant un auditoire, cet art performatif comme ça, cet art oratoire. Finalement, c'est ce que vous essayez aussi, et c'est tout à fait stupéfiant dans votre livre là, Lacan au banquet de Platon. C'est cette manière dont vous imaginez cet amphithéâtre grec, hein, qui vient comme ça absorber aussi l'auditoire.
Alors ça a été justement ce que vous relevez, c'est intéressant parce que ça a été une gageure pour moi. Je me suis dit, bon, j'adorais le texte de Lacan sur le banquet, j'adorais le banquet de Platon. Mais la structure qui m'apparaissait visuellement, c'était effectivement l'amphithéâtre. Et donc l'amphithéâtre, c'est quand même une structure assez monotone. Donc du coup, je me suis demandé comment faire rimer pendant 300 pages une structure répétitive comme ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu développer toute une série de figurations de l'amphithéâtre qui à la fois joue sur le ruban de Moebius, les nœuds borroméens, la structure en oignon de l'amphithéâtre grec, des jeux de lasso comme ça, des jeux de saisie topographique. Et puis aussi, ce qui me paraissait intéressant, c'est que ça allait en écho avec le travail topologique de Lacan. Donc moi, c'était comme une espèce de challenge d'avoir à trouver un élément topologique qui va courir pendant 300 pages, donc qui risque de lasser pas mal le lecteur. Donc du coup, j'ai inventé cette structure avec aussi, dans mon esprit, il y avait une répartition de l'espace comme ça. Le discours central de Lacan, il est donc au centre de ces anneaux de l'amphithéâtre. Et moi, je suis à la marge. Et donc, il y a tout un jeu sur la marge. Parce que j'aime aussi beaucoup l'enluminure médiévale, donc les espèces de diablotins à la marge. Ça me plaisait aussi de mettre en scène ma position marginale dans l'amphithéâtre. Donc je me figure dans l'amphithéâtre, mais à côté de moi, il y a à nouveau Oscar Wilde, il y a les théoriciens LGBT, il y a Foucault, il y a Butler, il y a des gens comme ça, justement, qui viennent un peu comme en position, pour moi, en position d'analysant, qui viennent un peu interpréter la parole de Lacan, voyez. Donc c'est.
Et puis il y a aussi cette position, c'est-à-dire que vous mettez le lecteur derrière vous.
Voilà.
Et que cette position
derrière vous. Voilà. Une position analytique
vous,
par excellence.
Absolument. Hein,
bien sûr. Oui, oui. Ça, justement, ça a été une réflexion de ma part. C'est-à-dire, c'est toujours la question. Que fait le lecteur quand il est en train, ou le regardeur, quand il est en train de regarder et de lire le travail qui est en train de se faire et qui est en train de se fabriquer aussi. Pour ça, moi, ce qui m'intéresse avec la philosophie ou avec Lacan, c'est justement de montrer le cheminement de la pensée. Donc, que fait le lecteur, que fait le regardeur? Eh bien, il faut un peu l'attirer, il faut le mettre un peu au-dessus de soi, il faut le faire rentrer un peu dans la marge et au centre même du discours. Parce que justement, je rappelle cette petite phrase de Derrida au début dans la carte postale, j'ouvre le séminaire le banquet de Platon par Derrida aussi, qui rappelle cette position toujours dans le dos de l'analyste.
Absolument. Alors, il y a aussi quelque chose, c'est que j'entends bien votre souci d'intégrer la topologie à la fois dans cette œuvre, mais il y a quand même ce séminaire-là sur le transfert. Sa question, c'est celle de l'amour. Hein, c'est pas n'importe quoi que vous traitez. Donc, c'est pas seulement le banquet, c'est la question de l'amour.
Oui, c'est ça. Oui. Alors, c'est justement aussi. Moi, ça m'a offert, si vous voulez, un travail. De réflexion sur c'est ça aussi qui est beau quand on travaille sur ce séminaire là même en tant que dessinateur et dans ma position à moi sur le séminaire, c'est que ça m'a poussé à me questionner justement sur la nature de l'objet, si vous voulez, de l'objet de l'amour, agalma, hein, dit Lacan, les agalmata, l'agalma, donc où est-ce que c'est l'agalma, qui le détient. Vous savez, il y a une répartition entre les Romanos et les Rastes, puisque on parle du banquet grec. Donc, qui a l'objet? Comment ça circule? Comment ça passe de l'un à l'autre dans l'objet aimé, dans l'objet d'amour? Qu'est-ce que ça veut dire que donner de l'amour? Vous voyez, c'est une réflexion sur l'objet, du coup, qui m'a particulièrement intéressé, parce que c'est là, dans ce séminaire, où Lacan va se saisir d'un objet un peu irrepérable, c'est-à-dire un peu qu'on n'arrive pas à attraper, mais qui circule. Et donc, c'était aussi un problème topologique pour moi, c'est-à-dire, comment on va parler de l'objet de l'amour, de l'amour, on va en parler, et comment montrer aussi quelque chose qui circule comme un objet un peu... un objet un peu, j'allais dire fantôme, mais comme un objet qui passe, quoi, qui va de ci, de là.
Vous abordez cette question-là de l'amour par le biais de ce séminaire de Lacan. Comment vous êtes perçu dans le milieu des artistes, justement, de vos collègues plasticiens? C'est quand même une approche qui doit être assez inédite. Comment regarde-t-il votre travail?
Alors, vous savez, le problème des plasticiens, c'est que, et du monde, un peu du milieu de l'art, c'est que quand on fait des livres, c'est assez mal vu. C'est un répertoire très parallèle à l'univers de la peinture ou de la sculpture. Et il y a très peu de galeristes qui, finalement, font une place à ce type de travail aussi, autant qu'à d'autres types de travaux, vous voyez. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment comme une espèce de schizophrénie entre un type de travail qui ne coïncide pas avec un autre type de travail. C'est vrai que c'est pas les mêmes, du tout les mêmes problématiques, ni la même façon de faire, ni la même façon de travailler quand on est face à un mur et quand on fait une peinture ou une sculpture et quand on est dans l'espace d'un livre. C'est pas du tout le même, vous voyez, le même type d'espace et donc le même type de rapport à la ligne, la couleur. Mais je trouve que aujourd'hui, les espaces de galerie, d'exposition font une place très minimale à ce type de travail. Ça reste quand même un travail qui est... Et alors, je vais aussi vous dire que c'est paradoxal, parce que la première fois que j'ai été parler de mon travail dans un univers de psy, on m'a dit, pour ne pas les nommer, j'ai été très bien reçu, hein, par une lacanienne, elle m'a dit, mais écoute Patrick, tu sais, ton travail un petit peu blasphématoire vis-à-vis de la figure de Lacan, beaucoup de gens ne viendront pas demain soir quand tu vas parler de ce travail. Et donc vous voyez, ça reste aussi de votre côté à vous un domaine un peu réservé à l'écrit, au texte, à la chose sérieuse. L'image, c'est encore un univers assez déconsidéré et je pense assez mal travaillé par les psys. Bon, on sait que Freud avait pas mal de distance vis-à-vis de la chose plastique, hein. Il n'était pas très fan de la peinture de Dali, etc., qui était venu le voir Alors que Lacan, lui, était très, très branché et très relié à, à l'univers visuel. Et d'ailleurs, c'est ça qui est beau dans ces séminaires quand on lit... moi, je lisais la relation d'objets, là, qui est parue repas. Et c'est bourré de références à l'anamorphose, à la peinture, au jeu sur l'image, à la structure. Bah, lui, il en a mis, il l'a d'ailleurs mis dans l'objet pulsionnel, hein, la chose vue ou à voir. Donc, bon. Bah, vous savez, dans l'univers artistique, tout le XXe siècle, si on prend les surréalistes, mais surtout les dadaïstes, beaucoup de choses, je veux dire, tous les performeurs, mais beaucoup de mouvements, même l'art conceptuel qui s'est beaucoup plus occupé du langage que de la chose matérielle, si on peut supposer que le langage est moins matériel qu'une sculpture, ça je ne sais pas, je vous laisse la réflexion là-dessus, mais c'est vraiment dans les arts plastiques, au niveau du XXe siècle, il n'y a pas de séparation entre le mot et le mot, l'aspect plastique du mot et le travail de la peinture, de la sculpture ou du reste, quoi.
Est-ce que ça veut dire, Patrick, que la psychanalyse infuse en fait en permanence dans vos œuvres ?
Non, alors je dirais pas ça, mais par contre, je dirais pas ça parce que si vous voulez, quand on fait un dessin ou une peinture, moi je suis plutôt peintre que je suis pas du tout sculpteur, par exemple. Quand on fait une peinture, quand on fait un travail comme ça bidimensionnel, projectif comme ça, c'est quand même un autre type de travail que d'être dans l'espace du livre, vous voyez, de la page ouverte du livre, d'un espace aussi narratif. On n'est pas dans la narration quand on est dans la peinture, vous voyez. C'est un tout petit peu différent. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ce que je disais tout à l'heure, le monde des galeries, le milieu de l'art sépare beaucoup la chose narrative de la chose purement visuelle, ça, vous voyez.
Est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose aussi de ce qui a été au travail qui intervient dans vos créations ?
Alors, c'est effectivement, là vous m'arrachez un secret, qui est de polichinelle, c'est effectivement un travail que j'ai fait parallèlement à un travail d'analyse aussi. Est-ce qu'on ne peut pas ne pas être à la fois émerveillé, inquiété, déplacé par le travail qu'on fait d'aller parler à un autre quotidiennement de tout un tas de choses qui ne l'intéressent pas. Bon, donc à ce moment-là, effectivement, j'ai fait mes livres autour de Lacan, je faisais un travail d'analyse, oui, ça c'est sûr.
J'ai l'impression aussi en vous lisant, parce que ce séminaire sur le transfert, c'est aussi l'occasion justement de parler du désir de l'analyste. Hein, et Lacan, j'ai noté là, Lacan il répète, hein, le patient, je ne suis pas là à la fin, en fin de compte, pour son bien, mais pour qu'il aime. Hein, et Eros, c'est la vie.
Oui.
Y a comme ça chez vous aussi, j'ai l'impression, une curiosité pour cette place d'analyste.
Oui, c'est obligé. C'est une place de, c'est à la fois une place de maîtrise et une place de souplesse avec ça, c'est-à-dire de. C'est à la fois une place où il nous semble saisir quelque chose de nous-mêmes ou quelque chose de l'autre, et en même temps, c'est comme l'objet d'amour. Il circule, il file, il fuit. Et il est imprenable, quoi. Donc, c'est forcément une place fascinante, oui.
Alors, vous disiez tout à l'heure que vous commencez à travailler là où, en tous les cas, vous y êtes, sur Foucault. Alors, quel est ce pas que vous avez fait ?
Alors là, c'est un petit peu différent. J'avais envie à nouveau de... quand la lumière est faible, de retourner à mon bureau de dessinateur et de me remettre à un livre. Effectivement, c'est aussi, si vous voulez, une pensée immense qui m'impressionne et qui me met au travail, quoi. J'ai relu l'histoire de la folie et c'est pareil, si vous voulez, c'est comme un peu avec Lacan. c'est les contemporains, mais c'est des gens extrêmement sensibles à la question visuelle, qui ont si bien parlé des Ménines ou de Jérôme Bosch ou de Goya. Si vous voulez, que quand on lit ces livres-là, on a forcément une mise en scène intérieure visuelle très, très, très forte que j'avais envie de travailler, si vous voulez. Voyez. Et puis, c'est un philosophe qui m'intéresse pour plein de raisons différentes. Mais...
Ça fait partie, du coup, de votre temps de travail, ces lectures de séminaires que vous faites, ces lectures de Foucault, de Wilde de...
Alors, ça fait partie de mes temps de métro le soir. Non, je lis pas mal de ci, de là, mais oui, je lis beaucoup dans ces moments, voilà, où je circule, ou le soir, ou bon, la journée, je travaille plus plastiquement à mon travail de peintre. Mais oui, ça fait partie. J'ai un temps de lecture chaque jour, ouais, j'aime beaucoup. Ça me manque sinon.
Quel est votre Lacan préféré, j'ai envie de dire. Vous voyez, qu'est-ce que vous avez envie de garder.
Oui. Alors, moi, il y a effectivement deux séminaires que j'adore. C'est Le Banquet. Bon, ça, j'en ai fait quelque chose. Et le séminaire sur l'angoisse, que je trouve très, très beau. Donc, je pense qu'un jour, je ferai un truc avec ça, parce que c'est vraiment un séminaire tout à fait fascinant sur, ben, à nouveau, si je me souviens bien, parce que je suis en train de le relire aussi, mais à nouveau, il est question aussi d'un objet qui doit manquer plutôt qu'il ne devrait être là. Donc, bon, là, je ne m'aventurerai pas parce que je suis devant une psychanalyste, mais c'est aussi la circulation d'un objet un peu insaisissable. Bon, c'est le moment aussi de l'objet A, un peu cette espèce d'objet irreprésentable. Hein, mais voilà, donc, il y a ça, vous me demandiez. Ah oui, il y a, non, vraiment, ce que j'aime beaucoup, c'est les quatre concepts fondamentaux, parce que là, il parle du tableau et de l'anamorphose, et là, c'est vraiment très, très beau. Ça, celui-là, je l'adore. Vous savez, quand on est devant une anamorphose, il l'a dit, hein, c'est une érection, hein, c'est un étirement, c'est une étendue. D'ailleurs, que disait Freud sur l'étendue, je ne sais plus. L'inconscient est étendu et il n'en sait rien, je ne sais plus, il y a un truc comme ça. C'est une étendue. Et donc, quand on est devant une anamorphose, moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'anamorphose, c'est une structure que j'adore, parce que c'est une structure, si vous voulez, devant laquelle... on est positionné, le peintre ou le dessinateur vous positionne de manière à ignorer ce que vous êtes en train de voir. Et pourtant, vous êtes devant, vous le voyez, et il va vous falloir faire un petit travail de déplacement pour entreapercevoir l'objet qu'on voudrait bien vous montrer. Vous voyez, c'est les ambassadeurs d'Holbein, c'est tout le travail sur l'anamorphose. Et ça, c'est très, très beau.
C'était Radiophonie, une émission proposée par Stéphanie Thor et Anthony Huard et propulsée par l'association Lacanienne Internationale.